Je voudrais commencer par remercier les organisatrices du séminaire, parce que j'aurais probablement lu le livre, mais vous m'avez permis de le lire beaucoup plus tôt que prévu. Et j'en suis très heureux, hein, donc merci à vous. Puis merci et bravo à toi, Stéphane. Quand on est enseignant à l'université, on sait à quel point c'est compliqué de faire des enquêtes et d'écrire. Et là, tu nous as fait une enquête qui n'est pas une petite enquête. Hein, c'est pas une enquête au rabais, pas du tout. Combien d'entretiens tu as fait, d'ailleurs ?
Je permets la chance de ne pas les compter. Mais, parce qu'en fait, avec Samira, la sœur aînée, sur 2 ans, il y a eu beaucoup d'entretiens. On se voyait régulièrement toutes les 3 semaines, tous les mois, avec des thèmes qu'on s'accordait. Et ces entretiens apparaissent peu dans le livre parce qu'on a le projet, je ne sais pas si on arrivera un jour à écrire un livre qui serait cette fois co-signé. Mais au départ, on voulait vraiment faire cette histoire de famille. Et donc, avec elle, j'ai une vingtaine d'entretiens qui font tous 2 heures ou 3 heures.
Donc une vingtaine d'entretiens avec l'aîné. Donc, il y a 8 enfants. Ouais. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Hein. C'est pas parce que tout à l'heure, on parlait de projet modeste, mais en fait, c'est pas du tout modeste. Hein. C'est une grosse enquête. Des entretiens aussi avec d'autres. Personnes qui ont joué un rôle important dans cette histoire, l'institutrice notamment. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'heures d'entretien, plus les archives. Donc un gros travail d'enquête en réalité. Une belle enquête associée à un projet original. Et donc au final, un livre, ça a déjà été dit, mais je veux insister là-dessus, un livre qui est assez exemplaire, qui pour moi va compter, et je pourrais presque m'arrêter là en vous disant qu'il faut surtout aller lire au plus vite, pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées. Je partage totalement ce qu'a dit Christine. C'est vraiment un très beau livre. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut le... J'ai pas envie de le ranger dans une case, quoi. Sociologie d'immigration, sociologie des classes populaires, c'est tout l'intérêt du livre. C'est un livre qui associe différentes sociologies. C'est comme ça qu'on devrait, mais j'y reviendrai tout à l'heure, à mon avis, faire des sciences sociales un peu plus souvent. Donc j'ai pas mal de choses à dire. Je vais essayer de distinguer différents points. Tout d'abord, le projet du livre et le mode d'écriture du livre. Je pense qu'il faut s'arrêter sur ce point. Ce sera le premier point. Le deuxième point, ce sera revenir justement sur la manière dont tu te tiens à distance des sociologies spécialisées. Et je crois que c'est important, vu la tendance actuelle des sciences sociales, à finalement devenir des domaines qui sont découpés en domaines spécialisés, quoi, de recherche, et je reviendrai là-dessus. Et puis dans un troisième point, puisqu'il faut bien te discuter, donc te titiller, je chipoterai un peu, et puis je te poserai des questions un peu plus critiques. Donc tout d'abord, on comprend assez vite que c'est un ouvrage qui s'adresse à un public plus large que le lectorat habituel des sciences sociales. Au fond, l'objectif est au moins autant politique que scientifique ou sociologique. Et donc, ça a déjà été dit, raconté. Je ne sais pas si c'est une contre-histoire. Je ne sais pas s'il faut toujours dire contre. Mais en tout cas, une autre histoire. Hein, une autre histoire un peu plus positive qui met l'accent sur des processus d'ascension sociale qui, même si ces processus restent fragiles, notamment d'ailleurs plus fragiles pour les garçons que pour les filles, probablement. En tout cas, des processus d'ascension sociale, des petites mobilités ascendantes, on pourrait aussi dire ça, en reprenant une expression de Lahire. Et donc, effectivement, des processus qui sont souvent occultés. Et donc, le projet est, de ce point de vue-là, éminemment politique. Dès le début du livre, on comprend que tu veux faire passer ce message. Quoi. C'est un des enjeux fondamentaux du livre. En recourant à une écriture sociologique, mais ça a été dit aussi, une écriture sociologique qui n'utilise pas de concepts, ou très peu, qui refuse un peu les raisonnements complexes pour justement être accessible à un public plus large. Et je dois dire que moi, j'ai des premiers échos qui montrent que ça marche plutôt bien. Hein. Par exemple, une de mes étudiantes dans un M2 de formation continue, travailleuse sociale, qui l'a lu et qui me racontait assez ému à quel point ça l'avait marqué et à quel point ça pouvait peser sur sa pratique professionnelle. Donc, sans nul doute, ça va compter. Ce livre est bien au-delà de nos univers étudiants ou scientifiques. Alors évidemment, c'est un type d'écriture qui peut aussi poser problème, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc ma première question, en fait, elle concerne l'écriture. C'est-à-dire, est-ce que tu t'es imposé certaines règles ou certaines contraintes? C'est un mode d'écriture qui est assez différent de celui qu'on peut trouver dans certains ouvrages habituels de sciences sociales ou dans les revues. Est-ce qu'on se doute, par exemple, que tu as veillé à ne pas créer de conflit entre les membres de la famille? J'imagine que quand on fait une enquête au long cours dans cette famille, ce qu'on craint surtout, c'est de créer des problèmes par son écriture. Donc est-ce que ça supposait de renoncer à dire certaines choses, par exemple? Tu n'es pas obligé de nous dire quoi, mais est-ce que tu t'es posé ce genre de questions? Donc ça, c'était le premier point, parce que ça me semble important. Le deuxième point, c'est qu'on retrouve là des caractéristiques qui étaient au cœur de tes travaux antérieurs, notamment ceux qu'on pouvait... J'avais eu la chance de lire ta thèse, donc ceux des caractéristiques qu'on trouvait dans ta thèse, et qui renvoient à une manière de faire de l'ethnographie. Je pense qu'on peut pas, ce serait réducteur de caractériser ton travail en disant ouais, c'est du travail ethnographique ou c'est une enquête ethnographique. À mon avis, il faut aller plus loin, mais quand même, c'est une manière de faire de l'ethnographie. Tu suis tes enquêtés sur le long cours, hein, sur le temps long. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Christine. En 2 ans, ça n'aurait pas donné la même enquête. Là, on a vraiment, pour le coup, 2012-2017, hein, 5 ans. On voit les bienfaits de cette durée, de cette longue durée. Tu les suis vraiment. C'est-à-dire que tu cherches à aller au plus près des expériences qu'ils et elles vivent, de leur raisonnement, de leur perception, de leurs émotions, ce qui va de pair avec le choix, et j'insiste là-dessus parce que parfois les éditeurs résistent à ça. Et donc le choix que tu as fait de publier de longs extraits d'entretien, ça c'est très important. Ce besoin d'ailleurs de coller au vécu se justifie, enfin en tout cas, et s'accompagne de la volonté d'utiliser des mails, c'est-à-dire d'avoir des échanges réguliers, hein, assez constants. Alors ça, c'est important parce que quand on fait une enquête ethnographique comme ça, vous savez des fois que la temporalité des entretiens fait que les échanges sont parfois assez espacés avec nos enquêtés. Et là, et je trouve qu'il faudrait le faire davantage, hein, tu utilises beaucoup les mails et on en voit les bienfaits en réalité. J'en profite pour dire qu'on a là des extraits d'entretiens d'une très grande qualité, en fait, assez rares. Je vais prendre quelques exemples, mais on pourrait en donner beaucoup. Je pense à tout le travail que tu fais avec Rachid et donc sur sa période délinquante. On a là quand même des extraits d'entretien d'une richesse très très rare. Même chose lorsque l'imposture, si je ne me trompe, Rachid a un peu bidouillé son CV. Et donc à un moment donné, l'imposture est révélée sur le lieu de travail et donc il doit quitter son travail. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ces parcours s'accompagnent probablement assez souvent de la crainte de la révélation d'une imposture, quelle que soit cette imposture. Peu importe d'ailleurs s'il s'agit d'une réelle imposture, mais probablement que le sentiment d'imposture accompagne ces parcours. Et donc ça, c'est un point qui m'a beaucoup plu. Évidemment, je pense aux extraits d'entretien dans le chapitre sur la période des attentats, qui sont très forts, assez émouvants aussi. L'entretien, page 242, lorsque Amel raconte sa journée où elle a été assesseur dans un bureau de vote. C'est un très long entretien, c'est assez magnifique. Je vous conseille notamment de lire ce passage. Oui, vas-y.
C'est pas vraiment un entretien, c'est justement intéressant parce que c'est...
Oui, t'as raison.
Il se trouve qu'elle tient un bureau de vote, pas très loin d'où j'habite à Paris. Elle tient ce bureau de vote parce qu'elle est assistante sociale, mais habitant à Paris, célibataire, un studio qui coûte cher, s'allumer des beurres dans les épinards. Donc c'est la première fois de sa vie qu'elle fait ça. Il se trouve que j'habite pas trop loin, je vais la voir. Et toute la journée, elle est prisonnière de ce lieu, si l'on peut dire. Et à 17h, je reviens avec un gâteau, un éclair au chocolat. Elle est très contente de cet éclair au chocolat. Et à la fin, en fait, en discutant, elle me dit des choses comme ça, bout de pourpoint assez intéressant sur ce qu'elle observe. Et je lui dis, mais pourquoi finalement, ce soir, en rentrant, pourquoi tu pourrais pas écrire quelques pages sur ton expérience première d'avoir été, pour la première fois de ta vie, contrôleur dans un bureau de vote, si on peut dire. Et c'est ce qu'elle va faire dans un long mail, 4 jours plus tard, le soir même, à 23h30, et à la fin, il s'excuse de ne pas écrire comme un écrivain.
Alors que c'est très très bien écrit, par ailleurs. Ce qui m'a frappé tout au long de l'ouvrage, c'est la lucidité, la clairvoyance, l'intelligence des deux sœurs aînées. C'est impressionnant. En quoi c'est impressionnant? C'est tout à fait logique. Oui, sauf que cette parole-là, en fait, on y a accès très rarement. C'est tout ce qui fait l'intérêt du livre. Et en même temps, c'est impressionnant et c'est désespérant, parce que cette intelligence, cette clairvoyance, cette lucidité, elles sont très rarement mises à profit, mises à contribution. Et d'ailleurs, c'est tout à fait ce que tu dis, tout le problème de ces jeunes diplômés issus de cités qui, par exemple, ont été très peu mis à contribution par les municipalités communistes en banlieue. Et ça, c'est un vrai gâchis. Et pour le coup, ton livre met aussi l'accent sur ce point. Et si on arrive à, si on a accès à cette parole-là, qui est assez rare, c'est tout simple, c'est aussi le produit de la relation d'enquête et la relation de confiance que tu as réussi à tisser avec tes enquêtés. Et c'est l'une des grosses réussites du livre. Alors au-delà de la manière dont tu as mené l'enquête et la façon dont tu as noué des relations d'enquête, on retrouve là, au fond, ce qu'il y avait dans des travaux précédents, c'est-à-dire ton refus de segmenter le questionnement. Et pour moi, c'est très important. quand j'étais en DEA, c'est-à-dire hier, il y a 20 ans, j'avais eu la chance donc, de lire ta thèse. Elle s'appelait « L'usine, l'école et le quartier ». L'usine, l'école et le quartier. C'est-à-dire il y avait la volonté de penser ensemble tout ça. C'est-à-dire tout ce qui renvoyait à la crise de reproduction du groupe ouvrier, tout ce qui renvoyait aux transformations de l'école, aux évolutions du quartier. Penser ensemble ces évolutions-là. Donc c'était dans la région, effectivement, comme tu l'as dit, de Montbéliard. Mais en fait, on retrouve cette même approche-là hein, dans cette enquête. L'objectif est d'établir des relations entre l'histoire de cette émigration-immigration, entre cette histoire-là et les parcours professionnels des parents, les trajectoires scolaires des enfants, leur socialisation adolescente et post-adolescente, leur mise en couple, le moment du mariage, ce que tu dis sur le mariage est très intéressant aussi, le rapport à la religion, à la politique, l'importance des lieux où ils résident, ce qui est quelque chose de fondamental, effectivement. En fait, c'est bien cette mise en relation qui fait l'originalité de l'analyse. Parce qu'en fait, si on sépare les éléments... je suis désolé de le dire un peu comme ça, mais si on sépare les éléments, ce que tu dis n'est pas d'une grande originalité. C'est la mise en relation, c'est-à-dire la forme que prend l'imbrication de ces différents éléments dans cette famille-là qui fait l'originalité du livre et qui fait la singularité de ces parcours. Par exemple, la question de la différenciation des investissements parentaux sur la scolarité des enfants en fonction du genre et de la place dans la fratrie. Bon, ça, c'est pas... Il y a des travaux en sciences sociales là-dessus. Hein. C'est ce qui a caractérisé les agriculteurs pendant des décennies, par exemple. Et donc, il y a des travaux là-dessus. Le quartier comme espace protecteur et comme refuge. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les enfants, quand ils ont un problème professionnel ou un problème conjugal, ils reviennent, notamment les garçons, dans le quartier, assez souvent au quartier. Bon, ça, on a des choses assez classiques en sociologie des classes populaires. Là-dessus, on avait ça chez Hogarth, on a ça chez Schwartz, etc. L'importance de certains passeurs, enseignants, travailleurs sociaux, par exemple, dans la façon dont ces passeurs peuvent légitimer ou autoriser hein, certains enfants ou certains adultes, ça c'est voilà, on a aussi des choses en sciences sociales. L'importance des groupes de pairs, des associations, là je pense à Eleïla, hein, l'importance des associations comme instance de socialisation. Le rôle des proches, des membres de la famille dans la solidification des opinions politiques. On a des travaux en sciences politiques là-dessus, comment les enfants, les parents, ou un oncle, une tante, ou des voisins peuvent jouer un rôle dans la production des opinions. Bon, là-dessus, on a des travaux, hein, je pense aux travaux de Céline Braconnier, par exemple. Ce qui donne la force de ton travail, c'est que tu associes tout ça. Ce qui, par contre, est très rare. Ben, c'est très, très rare, même. Parce que tu associes tous ces éléments-là. C'est penser ensemble donc ces dimensions dans le cadre de cette biographie familiale donc fait voir des choses qu'on voit très rarement. Et effectivement, comme l'a dit Christine, le rôle de ces deux aînés, qui ne se limitent pas du tout au travail scolaire. Moi, quand je commence à lire le livre, je me dis, bon, bah là, c'est le rôle des aînés qui ont réussi à l'école, qui vont aider les autres membres de la fratrie à l'école. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et encore aujourd'hui, ce travail, donc, il est continu. Et ça, c'est quand même fondamental. Ce que ça fait voir, c'est des choses qu'on voit assez peu, c'est tout ce qui concerne les relations intrafamiliales. Donc là, on a trois blocs, vous avez compris, on a les deux sœurs aînées, les trois frères qui viennent ensuite et les trois sœurs cadettes. Là, non seulement on a des relations entre ses frères et ses sœurs, mais on a des relations privilégiées entre certains frères et certaines sœurs, ou entre certaines sœurs. Hein, donc c'est Amel et Leïla, c'est ça. Ça veut dire que au-delà de, il y a 8 enfants, etc., ces relations privilégiées, à chaque fois, constituent des ressources. Et ça, c'est très important quand on travaille sur les classes populaires, parce qu'on est souvent un peu à sec, hein, ou un peu sec, je pourrais dire, quand on travaille sur les ressources des familles populaires. C'est-à-dire que vous savez, par exemple, je prends un exemple, depuis quelques années, on travaille sur le capital d'autochtonie. Bon, c'est parce que, tout simplement, c'est une des ressources qu'on a identifiées pour les milieux populaires, notamment au milieu rural, face à différents types de domination. En fait, là, tu montres bien comment, au sein de la famille, on a des ressources. On a des ressources qui sont produites par hein, la famille elle-même. Et ces ressources-là, on ne les voit pas toujours. Enfin, on les voit même rarement en sociologie. Et donc, des ressources qui ne sont pas des capitaux certifiés. Hein, sont pas, il est question de diplômes dans ton livre. Mais là, on va bien au-delà des diplômes ou des capitaux certifiés. Ton enquête permet aussi de voir des choses qui sont un peu contre-intuitives. Quoi. Je pense à la mère. Si on prend la mère et le père... Donc la mère a été beaucoup plus longtemps scolarisée que le père. On s'attendrait à ce que ce soit la mère qui pousse hein, pour la scolarité des enfants, qui investisse davantage que le père hein, dans la scolarité des enfants, et ce n'est pas vraiment le cas. Hein, c'est notamment le père qui va davantage inciter ses filles, les filles aînées notamment, à prolonger leurs études. Donc voilà. Pour tout, moi aussi, je pense que c'est donc, je répète, que c'est un très très bon livre. Et je discute maintenant un peu plus, hein, je peux. Alors, première remarque sur les lieux. J'ai beaucoup aimé tout ce que tu dis sur l'importance des lieux qui sont fréquentés. Alors, tu l'as dit, de la position exacte de l'appartement dans le quartier, donc c'est-à-dire c'est un petit immeuble, tu dis, mais à distance des grandes tours HLM. Ça, c'est le premier point. Donc, ça a des effets sur l'école primaire fréquentée. Ce n'est pas l'école primaire, la grande école primaire de la cité. Ça, c'est très important. Tu continues en parlant des lieux des études secondaires et supérieures. L'importance de Paris dans les trajectoires des aînés. Hein, les deux aînés vont à Paris. Ce qui est quand même fascinant, c'est qu'elle te donne rendez-vous dans des bars qui ne sont pas du tout anodins. Un bar rue d'Ulm, si je ne m'abuse, pour Samira. Le Café des cinéastes, Place Clichy, pour ceux qui connaissent un peu Paris, pour Leïla. En fait, elle te donne, ce que ça révèle, c'est qu'elles ont une connaissance pratique de Paris. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'aurais aimé savoir de quel Paris elles connaissent, en fait. Parce qu'en fait, c'est très important. C'est une ressource considérable, hein, de bien connaître Paris quand on vient de la province, d'avoir une connaissance pratique de Paris. Et ça va jouer un rôle très important dans la famille, parce qu'elles vont accueillir ensuite, d'ailleurs, les frères et les sœurs. Là, j'aurais aimé que tu en dises un peu plus, en fait, sur cette connaissance pratique de Paris, parce que c'est fondamental, à mon avis, dans leur parcours.
Pour l'instant, ça va, une question.
Pour l'instant, ça va, mais attends, ça va se compliquer.
C'est sûr.
Ça fait penser à l'importance des différences de contexte, tout ce que tu dis. On a plein d'exemples. Entre Sardan, donc qui n'est pas dans la banlieue parisienne, il faut insister là-dessus, parce qu'on a quand même beaucoup plus de travaux sur la banlieue parisienne et l'immigration que sur d'autres espaces géographiques en France. La différence entre Sardan et la banlieue parisienne, il y a ce passage très très intéressant où Azedine donc, va travailler à Paris à la RATP et a l'impression, je cite, d'être l'arabe de province. Ça, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire évidemment que ces jeunes de quartiers populaires d'une ville de province peuvent ressentir ça aussi.
Arabe provincial, il dit.
Un arabe provincial. La différence entre Sardan, donc le lieu où ils ont grandi, et la petite ville de province où Nadia va travailler, où elle se sent complètement déclassée dans cette petite ville de province. Mmh. Mais tout ça, ça ouvre la voie à une réflexion sur les relations entre ces expériences vécues par ces familles immigrées ou ces enfants de l'immigration et des espaces géographiques et donc différents espaces sociaux. C'est-à-dire qu'il y a probablement, à mon avis, travailler peut-être un peu plus sur la façon dont les espaces sociaux, donc géographiques, structurent ces expériences-là. Il y a des différences très importantes. Hein. Tu as montré des chiffres tout à l'heure, mais ça nous rappelle quand même qu'il y a, par exemple, il y a eu une forte immigration maghrébine et turque, par exemple, dans des petites villes en milieu rural ou dans des petites villes de 10-20 000 habitants, parfois à distance des grandes villes. C'est-à-dire dans des configurations encore différentes de celles que tu décris. Et je pense qu'il faudrait, à mon avis, travailler davantage là-dessus. Moi, j'ai grandi à Flers, dans l'Orne, qui est une ville où il y avait une forte immigration maghrébine, mais à distance des grandes villes, à peu près une heure des grandes villes. Donc, c'est un cas de figure encore très différent.
Je te dis où se trouve l'Orne.
Oh là 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 là. Je passe sur l'ethnocentrisme de classe que ça révèle. Ça, il faut que tu dises où se trouve l'Orne. Mais l'Orne en Basse-Normandie. Vous connaissez tous la Basse-Normandie, non? Non, d'accord. Bon, vous êtes moins nombreux à connaître l'Orne. Autre question, alors pour le coup, une question de méthode assez classique. Est-ce que l'ordre de tes entretiens, de tes récits, a joué un rôle déterminant dans l'histoire que tu racontes? C'est-à-dire que si tu avais commencé par les garçons, quelle histoire tu aurais construite? Alors tu vas me dire, bah oui, je ne pouvais pas commencer par les garçons, mais certes. Mais est-ce que l'ordre des entretiens a pesé sur la manière dont tu construis cette histoire? Du coup, c'est important, parce qu'on a quand même souvent l'impression que c'est quand même une histoire qui reste très liée au point de vue des deux aînés, malgré tout. Alors le troisième point, c'est que je trouve parfois qu'il nous manque des éléments qui nous permettraient de mieux comprendre ces trajectoires. Bon, c'est assez logique qu'il manque des éléments, hein. Ça c'est pas le problème, mais le mode d'écriture fait que tu ne dis pas parfois qu'il manque des éléments. Alors si je prends le chapitre 7, alors Azedine, donc travaille à la RATP, et il y a tout un chapitre très intéressant sur la découverte du syndicalisme. Bon. C'est-à-dire, mais tu le prends là à un moment de sa trajectoire, au moment où il travaille à la RATP. Mais on a quand même très peu d'éléments sur sa socialisation primaire et secondaire qui permettrait peut-être de mieux comprendre tout ça. Même chose, à un moment donné, tu dis que les trois garçons ont un penchant pour les théories du complot. Mais là, il faudrait pour le coup aller... le penchant des garçons pour les théories du complot, ça ne va pas de soi non plus. C'est-à-dire, il faudrait, à mon avis, l'expliquer un peu plus. Dans le chapitre 9, la petite dernière, donc Nadia, tu nous dis qu'elle se distingue assez jeune de ses sœurs par le fait qu'elle est, je cite, « fascinée par tout ce qui brille. Ça, ce sont des propos de Leïla ou Samira, mais tu reprends cette idée. Être fasciné par tout ce qui brille. Alors, c'est pas anodin parce que dans l'analyse, tu laisses entendre que ça a joué un rôle sur la manière dont elle a construit son ascension sociale, elle. Mais sauf que, évidemment, soit on en fait une disposition, être fasciné par tout ce qui brille, donc il faut le comprendre, mais si on n'en fait pas une disposition, on n'est pas loin de la différence de caractère. Quoi. C'est-à-dire, on a des enfants qui ont des caractères différents et des enfants qui, très jeunes, se distinguent, etc. Et là, je trouve qu'on est plus proche du caractère que de la disposition, et c'est un peu embêtant. Il y a la question de les analyses un peu psychologisantes. Alors, c'est bien que ce n'est pas simple de travailler là-dessus, d'en parler. La question de Rachid et la relation avec son père. Tu expliques que la période délinquante de Rachid s'explique, alors pas uniquement, hein, mais que s'explique probablement en partie par des difficultés relationnelles avec son père. Voilà, c'est une question qu'on se pose quand on fait des recherches en sciences sociales. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce genre d'explication ? Bon, voilà, tu as fait le choix de le dire tel quel. Bon, voilà, c'est une question. Enfin, j'arrêterai là-dessus, je vous promets. J'ai parfois l'impression, mais c'est une façon de te titiller, hein, mais j'ai parfois l'impression que tu t'en remets un peu trop au discours de tes enquêtés. Parce qu'on a affaire à des enquêtés qui, évidemment, tiennent des discours de mise à distance des autres fractions des classes populaires, et notamment des autres fractions des classes populaires qui sont restées dans le quartier. Hein ? Ça m'a frappé notamment à la fin de l'ouvrage. Avec ce discours, tu reprends quand même un peu à ton compte cette analyse selon laquelle le quartier à Sardan aurait profondément changé. Il y a des lignes quand même qui disent que le quartier serait, côté des jeunes principalement, composé aujourd'hui de jeunes hommes au chômage, toxicomanes, et de jeunes filles voilées. Et je me demande si, au fond, ça t'a pas amené un peu à durcir la différence générationnelle. On peut quand même penser qu'il y a des points communs entre ces différentes générations, que le quartier aujourd'hui n'est pas totalement socialement homogène, hein, par exemple, loin de là. Donc voilà, je me demande si à ce moment-là, en restant un peu trop proche du discours de tes enquêtés, très classique, hein, quand on a évidemment le discours d'enquêtés de milieux populaires qui ont quitté le quartier et qui tiennent un discours de différenciation de ceux et de celles qui sont restés, quelque chose d'assez classique quand on travaille sur les classes populaires. Voilà, mais ça c'est uniquement parce qu'il fallait bien que je chipote, et moi aussi j'ai adoré ce livre.
Merci beaucoup aussi pour la discussion. Donc, je vais essayer de répondre à tes questions. La première question sur les contraintes, les règles, l'écriture, par rapport à l'écriture. C'est vrai que, en fait, j'ai surtout écrit sous contrainte, ce qui parfois est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais à l'époque à Nanterre quand j'ai écrit ce livre, donc je me suis débrouillé pour charger la barque au premier semestre, pour avoir un deuxième semestre, c'est-à-dire de janvier à juin, beaucoup plus libre, pour avoir des tunnels d'écriture comme ça. Donc j'ai écrit ce livre en 6 mois en m'astreignant, voilà, comme un écrivain que je ne suis pas. Voilà, il fallait que je fasse mes pages par jour, et avec une fois que le plan était défini, voilà, je me suis vraiment donné ces critères-là. Il fallait que le bouquin soit fini pour l'éditeur à la fin du mois d'août. Donc je me suis investi corps et âme dans cette écriture. Sur la manière d'écrire, c'est vrai que je n'ai pas du tout théorisé ça. On pourrait dire la principale difficulté, si tu l'as bien souligné, c'est qu'il y avait un matériel effectivement très, très riche et surtout inégalement transcrit. Pourquoi inégalement transcrit ? Parce que les premiers entretiens étaient les plus riches, parce que c'est là qu'on découvre, c'est là que les personnes se découvrent. Et les entretiens qui suivaient étaient plus des compléments, sauf avec Samira, où là c'était un peu différent. Et donc c'est vrai que je me suis centré sur... Parce qu'on n'a pas tout le temps de réécrire, de réécouter tous les entretiens. Et donc je me suis centré sur les premiers entretiens de chacun des garçons et des filles, en oubliant plein de choses. Parce que là, en ce moment, le travail que je fais avec un metteur en scène qui est à Lyon, là, Dominique Lurcel, la compagnie Passeur de mémoire, donc pour qu'il fasse un spectacle avec des lycéens, il essaie de faire un spectacle avec des lycéens. Donc il m'a dit, je lis ton livre comme un charognard, il n'y a pas assez d'entretiens, donne-moi des entretiens. Donc j'ai demandé aux aînés si elles acceptaient. Donc j'ai donné des entretiens détaillés. Les premiers entretiens avec Samira font l'un 50 pages, l'autre 60 pages. Donc il y a déjà 120 pages, 110 pages d'écriture, etc. Et donc il me dit à chaque fois, mais t'as pas dit ça dans le livre, etc. Parce qu'effectivement, il y a des foules de données, donc il faut hiérarchiser. Donc j'ai construit le livre, effectivement, à partir de cette opposition très forte entre les destins des deux filles aînées, des cinq filles, et des trois garçons. Et donc et en termes de technique d'écriture, voilà, je crois inconsciemment, j'ai pas voulu faire la misère du monde, mais voilà, j'ai été formé par Pialou, je reste un peu sous son influence, donc j'ai voulu raconter les choses sans effectivement les conceptualiser a priori. Bon, Grignon parlait de description en concept, je sais pas si j'y suis parvenu. Alors la deuxième chose que tu dis, effectivement, très juste, sur les lieux. Il se trouve que je suis invité par Isabelle Bakouche et Topalov en séminaire à l'école des études. Ils m'ont fait exactement la commande que tu m'as... Ils m'ont passé la commande que tu m'as indiquée ici. Et tu as raison. Bien évidemment, la question des lieux est décisive. Et certainement, dans le livre, là aussi, tu as raison. Si jamais il y a un bouquin en poche, je vais peut-être un chapitre là-dessus. Il y a un effet décisif des lieux. Pourquoi ? Ça me permet juste de développer un peu. Ils ont grandi dans cette cité HLM, tous. J'ai oublié de dire, ça n'a pas encore été dit, mais un point très important quand on parle d'immigration, c'est une famille immigrée algérienne qui revient chaque année chez eux, en Algérie, à Mostaganem. Les parents ont construit très vite une maison, puis vendu et racheté une deuxième maison plus confortable. Donc les enfants, quand ils grandissent, ils ont deux lieux de socialisation résidentielle, la cité et la maison en Algérie. Le petit Sardan, comme on dit, le petit Lille, le petit Lyon, parce que tous les enfants d'immigrés de Lyon, de Lille, la quatrième ville, c'est Lille, Lyon et Sardan, les parents ont construit dans cet endroit. Et donc, c'est tous les immigrés qui se retrouvent en vacances là pendant 2 mois. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi... ils apprennent beaucoup de choses dans le livre. Je ne sais pas quoi t'as dit, mais dans le livre, pour comprendre la politisation des filles notamment, le fait qu'elles aient grandi dans les années 90 avec, dans le cas de ce qu'on a appelé peut-être à tort, je ne sais pas, la décennie noire, à savoir... les attentats multiples, la bataille contre le fils, les attentats, bon, c'est, voilà, une Algérie très violente. Hein, Amène le raconte en détail toute une journée de trajet horrible entre Alger et Mostaganem par l'autoroute, où il y a des barrages tous les 15 kilomètres, où on voit les collines à partir de l'autoroute qui sont en feu, où on voit, et quand ils grandissent, un des oncles maternels de la famille devient un militant fils, barbu, comme elles disent, et qui, tout d'un coup, alors que tout se passait bien entre cousins et cousines, un jour, elles reviennent de plage, Samira revient avec sa cousine de la plage, elles sont toutes les deux en short, et l'oncle ouvre la porte de la maison, et il voit sa fille en short, et lui balance une gifle énorme et gigantesque qui a complètement traumatisé Samira, sachant qu'aussi, ça s'est pas dit dans le livre, mais un an plus tard, il lui met la main sur la cuisse quand ils conduisent ensemble pour aller je ne sais où. Donc voilà, il y a aussi cette expérience très, très forte qu'elles ont connue. Hein, donc ça, c'est aussi un effet de lieu. Un effet de lieu important, effectivement, c'est Paris. Et là, c'est intéressant pour dire, la question que tu poses, c'est la connaissance pratique de Paris, et tu as entièrement raison. Ça, c'est vraiment des questions on pourrait dire, liées travail et résidence. Quand Samira vient à Paris... J'ai pas encore eu le temps de parler de ça, mais c'est fondamental. Elle s'est mariée dès l'attribution de son titre d'infirmière, parce que ça faisait des années que sa mère la tannait pour le mariage. La fille aînée doit se marier le plus tôt possible. Elle avait réussi à prolonger le mariage, à différer le mariage plus exactement. Et elle a réussi à court-circuiter aussi les différentes demandes qui lui ont été faites, parce que c'est un bon parti. Et elle arrive, grâce à une amourette de vacances, à négocier un mariage avec un de ses copains de vacances, qui est lui, du côté de la ville de Lyon, dans une banlieue lyonnaise. Elle se marie avec lui 3 semaines, même pas, après la réussite à son diplôme d'infirmière. Mais il se trouve que, comme c'est un mariage un peu, non pas sur le gaz, mais quand même assez vite fait, elle ne connaissait pas tout de cet individu qui est son futur mari. Et il se trouve, quand elle vient habiter ici à Lyon, je ne sais pas si c'est Bron ou Rieux-la-Pape, peu importe, elle trouve un poste, comme vous savez, les infirmières sont très demandées, elle trouve tout de suite un poste d'infirmière sur place, et elle s'aperçoit que son mari ne travaille pas, est plutôt dans le deal, et surtout consommateur assez frénétique de substances illicites. Donc, voyant le désastre, Et parce qu'elle est à la fois travaille, elle fait la boniche, quoi, entre guillemets, ce qu'elle me dira de cette manière. Elle s'aperçoit que ce mariage est voué à l'échec, mais elle ne peut pas divorcer à l'époque comme ça. Elle n'a pas le droit ou elle ne se sent pas le droit. Donc, pour respecter les règles du divorce dans son milieu familial, elle ruse et elle revient dans sa famille avec son mari. Ils habitent 3 mois ensemble chez les parents, et là, les parents peuvent constater effectivement les dégâts, et voir notamment que le fils, le gendre, a ces travers-là, et à ce moment-là, un jour, elle ne peut pas le dire comme ça, elle dit à son père, je pars à Paris ce matin, son mari dort, et donc son père accepte, elle s'en va à Paris, et comme ça, les parents vont négocier le divorce loin d'elle, et quand elle arrive à Paris, le jour même, une copine lui trouve une clinique privée, qui est dans le quartier latin et qui est très demandeur d'infirmières diplômées et compétentes. Ce qui fait que l'après-midi même, elle commence son travail et que la clinique privée, étant en quête de stabilité de son personnel, lui trouve un appartement à un prix, un studio défiant toute concurrence, à la montagne Sainte-Geneviève. Donc elle va découvrir Paris par le plus affreux, entre guillemets, de Paris de la montagne Sainte-Geneviève, en étant infirmière le jour et en passant son temps à la mosquée, à l'Institut du monde arabe, au Louvre, et marchant beaucoup dans Paris. Elle va me dire qu'effectivement, on va faire 2 entretiens un jour. Là, son coin préféré, c'est le Jardin des Plantes. En fait, sa connaissance pratique et son appropriation de Paris passent par les hauts lieux de la culture de Paris, et notamment du 5e et 6e arrondissement. Et les sœurs Léla vont ensuite, elles, se déplacer en proche banlieue. Mais tu as entièrement raison de dire qu'effectivement, du côté de l'appropriation, c'est tout à fait fondamental. Donc effectivement, les espaces géographiques structurent. Et là aussi, c'est intéressant de voir que les garçons, là, tu as raison, parce que les garçons, quand je discute avec Asdine, quand il vient chez sa sœur, lui, effectivement, ce n'est pas l'Institut du monde arabe, ce n'est pas le Louvre, mais c'est les street basket en dessous de Port de la Chapelle. C'est là qu'il va s'approprier Paris en jouant au basket avec des... Et pourquoi ? Là, effectivement, l'intitulé arabe provincial est tout à fait intéressant, la manière de travailler sur les mots, ces mots indigènes, de nous enquêter, puisqu'il va me dire ça. Quand il dit arabe provincial, c'est bien sûr pour les Parisiens stricto sensu, et la police notamment, je suis, et je ne peux pas me cacher, je suis arabe parce que j'ai un faciès de ce type et je suis facilement repérable comme tel, même si j'ai ma blouse RATP. Mais par rapport, comme il dit, au mec de cité de l'endroit où il habite, il a trouvé un HLM juste en bordure du périphérique de Paris, eh bien, il m'a raconté, mais bien sûr, il y a beaucoup de... Le chapitre, tu as raison de dire, il n'est pas complètement abouti, le chapitre sur Asie, parce que j'étais débordé par le matériel et la rapidité d'écriture, mais il va me dire tout de suite qu'il a eu des moments de friction assez vifs avec ces jeunes de cité arabes comme lui, parce que, d'une certaine manière, on l'accuse de jouer aux Français ou de jouer le type qui courbe les chines en allant au boulot le soir ou le matin tôt. Et donc, il a eu plusieurs fois des altercations avec des de cité, comme il dit, les hittistes, ceux qui tiennent les murs et qui se foutent de sa gueule parce qu'il va servir, entre guillemets, à la RATP. Donc, pourquoi il est arabe provincial ? Parce qu'effectivement, pour les Arabes de cette cité, c'est le mec de province qui croit encore un peu à ça, qui fait du sport et qui tient un boulot, etc. Et donc, lui-même va beaucoup dire, il y aura beaucoup dans les entretiens, beaucoup d'entretiens sur les mecs, ces Arabes de Paris ou de Seine-Saint-Denis, je ne comprends pas. Je suis beaucoup plus proche, et ça, c'est intéressant justement par rapport à peut-être la portée politique du livre, à savoir que lui, il se sent beaucoup plus proche de ses copains, entre guillemets, français de Sardan, que ses copains, que ses Arabes de cité, avec qui il n'a rien à voir. Hein, notamment cette espèce de... Alors, il y a les rapports à la religion, parce que lui-même, c'est de la famille, c'est peut-être le plus religieux, mais le plus croyant, il me le dira, mais permanence, c'est celui qui il va à la mosquée, mais il y va toujours seul, il est toujours dans une croyance très privée, il n'en parle pas, alors que dans son travail, il est sans arrêt en butte avec des Arabes comme lui, qui, parfois, souvent même, portent la barbe, mais ne cessent de jurer selon le Coran, etc., en font des tonnes, comme il dit, par rapport à la religion dont ils font ostentation, alors que lui, il est totalement à l'opposé de ça. Et justement, il est comme ses parents, en disant, c'est notre religion, on ne la renie pas, mais on la pratique de manière extrêmement, privée, on peut dire. Alors sur les l'ordre des entretiens, là où tu as raison, c'est qu'effectivement, et je pense que pour des raisons de qualité des entretiens, les premiers entretiens ont été beaucoup plus utilisés que ceux qui ont suivi, parce que c'est là que souvent, vous savez sans doute que voilà, dans les premiers entretiens, qui sont des entretiens qui durent quand même souvent 2 heures, 3 heures, donc on a le temps d'aborder un peu un certain nombre de choses, et là il y a un certain nombre de choses qui me sont révélées, qui nous sont, avec bien sûr des effets aussi très compliqués. Tu as eu raison d'insister sur la petite dernière que j'appelle Nadia. C'est la seule qui a un peu tiqué par rapport au livre, parce qu'effectivement, elle n'a pas aimé que je dise qu'elle était fascinée par ce qui brillait, qu'elle aimait les objets de luxe, etc. Mais elle, c'est typiquement... j'ai fait des entretiens avec elle qui sont extrêmement difficiles à interpréter parce que extrêmement contradictoires. Puisque elle est, on pourrait dire, c'est une des plus intellos de la famille. Elle est oralement, elle est extrêmement à l'aise et quasi brillante. Et en même temps, le grand paradoxe de sa vie, que j'ai essayé d'éclaircir avec elle, mais avec beaucoup d'insatisfaction, si l'on peut dire, et avec beaucoup aussi de l'aide des frères et sœurs pour comprendre, mais celle qui est allée dans un collège, un lycée, elle aussi bourgeois, qui a des copines qui ont des haras, qui a fait du cheval, etc. Et puis en même temps, elle va fumer du cannabis, la seule des sœurs au lycée, passer une période de troubles existentiels très forte, mais pour se ranger, me dit-elle, Elle va finalement, après moult hésitations, le matin même du mariage, son frère Azdi lui dit « Tu sais, Nadia, tu as le droit de ne pas te marier. Hein, » ils savent très bien. Donc, elle va se marier avec ce qu'elle appelle son copain, que tous les autres frères et sœurs appellent. Lui, c'est un vrai mec de cité. Et donc, elle me dira qu'effectivement, elle fait ce mariage-là parce qu'elle est la petite dernière et qu'à travers ce mariage, elle entend... elle me le dira explicitement, racheter sa faute originelle d'avoir été une adolescente compliquée, ayant posé pas mal de problèmes, de soucis à ses parents, etc. Donc là, on pourrait dire, pour revenir sur les questions d'ordre d'entretien, j'ai privilégié ces entretiens-là. Et puis la dernière critique que tu fais, ben je l'entends. Je l'entends effectivement sur être parfois trop proche des propos des enquêtés, notamment sur la fin, effectivement, mais là, c'est pratiquement une question politique. Parce qu'en fait, à la fin... Nadia qui passe à droite, c'est la seule à la famille, c'est la petite dernière. Elle travaille dans un pôle emploi et à 80 km de là où habitent ses parents. Et elle ne supporte pas d'être une sorte prise pour l'arabe de service qui doit rendre service à ses compatriotes arabes qui sont tous dans la mouise. Certains arrivent avec le truc sur le front, là, des femmes très voilées, etc. Donc elle essaie de leur dire, elle est complètement, elle a intériorisé les tausses bureaucratiques de Pôle emploi en disant quand on cherche un emploi, on se défroque, entre guillemets, de toute sa gestuelle et de toutes les marques de son arabité musulmane, si l'on peut dire. Et donc elle ne comprend pas qu'un tas de gens viennent comme ça chercher une aide auprès d'elle parce qu'elle s'appelle Nadia Beloumi, et croyant avoir des passe-droits. Donc elle est extrêmement rude et dure par rapport à ses compatriotes, mais ça pourrait être ses co-religionnaires. Et justement, dans ce cadre-là, quand je vais lui faire raconter longuement, mais là, ce n'est pas que des propos, parce que je suis allé sur place au moment du Ramadan et j'ai vu ça quand même. C'est-à-dire qu'en fait, au moment du Ramadan, le quartier est assez changé. Et elle ne supporte pas le contrôle qui est fait de la part d'un certain nombre de jeunes activistes, dont elle dit qu'elles sont activistes, au niveau de la norme religieuse. Donc il y a un extrait d'entretien où elle dit « Mon père est hospitalisé, je vais au Carrefour ou à Auchan chercher un McDo, donc je traverse tout McDo avec mon McDo et tous les, entre guillemets, les jeunes arabes plus ou moins barbus vont me lancer des regards noirs parce que j'ai avec moi des repas, etc. » Bon, elle insiste là-dessus, mais quand on regarde de près... et puis elle raconte justement comment le quartier devient difficile à vivre parce qu'il y a la nuit, 2h, 3h du matin, tout le temps de monde, etc. Donc je tiens ces propos comme étant avérés. En même temps, l'institutrice que j'ai vue m'a dit exactement la même chose, à savoir effectivement, et là c'est là aussi, je disais toujours ça à mes collègues, et parmi dans la salle, s'il y a des thésards ou des apprentis thésards, on manque en sociologie aujourd'hui d'une sociologie du logement, du peuplement des cités HLM. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les émeutes de 2005? On sait tous aujourd'hui qu'il y a eu un très grand mouvement de sauve-qui-peut de familles. La thèse d'Anne Lambert, qui était ici à l'ENS Lyon, le montre très bien, de familles qui ont quitté les HLM, des familles immigrées, notamment algériennes, stables, qui ont quitté les HLM pour aller à 10, 20, 30 kilomètres de Lyon ou des grandes villes pour fuir la situation dans l'HLM, mais on ne sait pas, et ça c'est une question que je pose tout le temps aux démographes ou aux sociologues ou aux géographes, on ne sait pas vraiment quel a été le remplacement. Qui sont aujourd'hui sociologiquement les gens qui habitent les cités HLM? On sait qu'il y a plus de familles monoparentales, mais la sociologie que j'ai demandé, là, j'ai vu les parents, j'ai vu les frères et sœurs, ça, je dis, mais là, où vous habitez depuis 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors le père dit, avec son accent inimitable et avec de l'humour, il dit à sa fille, ils ne nous ont pas ramené la crème d'Algérie. Première chose qu'il dit. Bon, ça, c'est à vérifier, mais voilà, on sait très bien qu'une partie de la population a changé parce qu'il y a les mariages. Les filles du bled, les filles de Sardan qui n'ont pas réussi leurs études comme les Meloumi, se marient. Et la plupart du temps, elles se marient avec des mecs, des garçons du bled. Et parfois aussi pour les garçons, se marient. Bon, il y a ce processus-là. Et elles me disent, voilà, aujourd'hui, mais ça, je parle sous leur contrôle, et tu as raison d'insister sur la fragilité du témoignage, elles disent, voilà, les cités d'aujourd'hui, c'est des familles monoparentales, des gens en RSA, la seconde génération qui n'a pas trouvé de place et qui sait. Samira dit de manière péjorative, parce qu'elle, elle est très laïque par rapport à ça, même si elle est très, dans sa pensée, soufie, elle est passionnée par la mystique soufie, qui sont confiés en religion, c'est ce qu'elle dit. Voilà. Et je pense que, ayant quand même traîné plusieurs jours sur place, ça me semble assez cohérent comme paysage. Mais tu as raison de dire, et j'espère un jour dans l'édition de poche, nourrir, abaisser ton degré de scepticisme en montrant statistiquement ce qu'il en est.
Interroger.
Oui, pas de problème. C'est bien. Merci en tous les cas. Merci pour vos deux lectures. Maintenant, je pense qu'il est temps que la salle, comme on dit, réagisse.
Merci beaucoup.